Mesdames, Messieurs, bonsoir. En guise d'ouverture, je vous dirai une chose. J'ai peur. Oui, vous m'avez bien compris, j'ai peur. Mais cette peur qui voudrait que je quitte l'estrade sur le champ est, paradoxalement, la raison m'ayant mené jusqu'ici, devant vous. Et cela par goût du défi. Bien entendu, les enjeux soulevés par la question que j'ai choisi d'explorer aujourd'hui dépassent mes sentiments personnels, et soyez rassurés, l'étalage de mes confessions intimes s'arrêtera ici. La peur peut-elle être considérée comme un moteur de l'histoire? Voilà le sujet qui me préoccupe et que j'aimerais évoquer avec vous. Je ne vous apprendrai rien en déclarant que, de tout temps, l'homme a été confronté à ses peurs. Par contre, ce que je souhaiterais exposer, au fil des minutes qui suivent, réside dans la manière dont ces craintes ont pu influencer nos choix et par conséquent, le déroulement de notre histoire. Elles ont effectivement permis d'accomplir des choses extraordinaires, mais ont également constitué la cause d'erreurs aux lourdes conséquences. Au premier chef, il va de soi que décrire la peur ne peut s'envisager sans réfléchir à l'une des phobies intemporelles de l'homme, celle de la mort. Afin de contrer celle-ci, nombre de cultures se réfugient dans la croyance d'une autre vie, idée centrale dans maintes religions. Cependant, il est établi que cette conviction revient à transférer la crainte vers des aspects post-mortem et le jugement d'une toute-puissance, bien plus que sur la mort elle-même, finalement. Dès l'Antiquité, les philosophes grecs mirent d'ailleurs en évidence le paradoxe de cette peur. Ainsi, Épicure déclara « Lorsque nous sommes vivants, la mort n'est pas. Lorsque la mort est là, nous ne sommes plus. Dès lors, dans la mort, que crains-tu exactement ?» Dans la foulée, que devons-nous penser du catholicisme en Occident qui saura tirer profit de cette frayeur collective en prônant ses valeurs comme seule voie d'accès au paradis, assoyant ainsi son pouvoir sur une population trop crédule. À partir du XIVe siècle, une terreur généralisée s'installe sur les pays chrétiens, causée par la conjonction de l'épidémie de peste, des invasions ottomanes et de la montée des hérésies. En qualité de remède, l'Église cristallisera habilement cette épouvante en désignant des boucs émissaires, et tous les suppôts de Satan y passeront. Juifs, sorcières, turcs, indigènes iconoclastes d'Amérique seront autant d'hérétiques que l'Inquisition se chargera de punir. Je ne vous rappellerai pas les nombreuses condamnations d'innocents, ainsi que l'important phénomène d'acculturation occasionné par cette pratique. De même, d'autres inquiétudes, toujours d'actualité, plongent leurs racines dans le Moyen-Âge. En effet, mesdames et messieurs, saviez-vous qu'à l'époque, on craignait déjà la pollution de l'air, ainsi que le chômage ou la faillite? Ces tracas, dont les répercussions sont sans doute moins retentissantes que celles qui viennent d'être abordées, n'en ont pas moins traversé l'histoire et tourmenté l'homme depuis des siècles. Ensuite, j'aimerais rapidement faire allusion à d'autres angoisses historiques. Moins constantes, certes, plus éphémères, mais aux effets non moins remarquables. Notamment la grande peur de 1789, en France, quand la rumeur d'un complot aristocratique contre le monde paysan fit émerger de multiples foyers de panique participant à la dynamique de la Révolution française. La peur a aussi souvent servi de moyen de pression, depuis les anciens systèmes d'esclavage jusqu'au régime totalitaire moderne. De fait, quand Adolf Hitler devint chancelier en 1933, il ne lui fallut que peu de temps pour convaincre le gouvernement d'instaurer l'état d'urgence par crainte d'un soulèvement communiste. Des formations paramilitaires furent encore spécialement créées afin de réprimer par l'intimidation toute opposition politique au régime nazi. Perquisitions, écoutes téléphoniques et incarcération sans motif installèrent rapidement un climat d'épouvante anéantissant toute forme de liberté d'expression. Au même moment, en Italie, l'État fasciste se dotait d'un chef, en la personne de Mussolini, et la propagande véhiculait ce slogan « Le guide a toujours raison ». Face à ce totalitarisme, l'individu et l'esprit critique n'existaient pas, la milice du parti se chargeant d'emprisonner ou d'exiler les plus récalcitrants. L'on sait aussi que des processus identiques, destinés à mater les dissidents, étaient alors mis en place en URSS. Ces exemples, et tant d'autres, montrent que l'histoire nous apprend qu'un fort système de répression permet de contrôler le peuple et d'endiguer tout mouvement de contestation. Comme corollaire direct à cette affirmation, il me semble maintenant essentiel de mentionner une autre forme de peur, celle de l'autre et de la différence, dont les contours demeurent tristement actuels. Bien que ce sentiment soit palpable aujourd'hui, il n'en est pas récent pour autant. Il est en effet avéré que les Grecs et les Romains, des milliers d'années avant nous, considéraient toute culture étrangère comme barbare. Les mœurs et les coutumes de ces peuples différents effrayaient la population. Et puis, n'est-ce pas cet état d'esprit qui poussa la Chine à fortifier sa grande muraille pour repousser les Mongols? La colonisation, quant à elle, n'est-elle pas un parfait exemple de tentative d'effacer les différences en imposant ses idées? Le mur de Berlin n'illustre-t-il pas à merveille la volonté de s'isoler de ce qui nous est étranger? Et que dire enfin des immenses remparts et autres barrières qui fleurissent aujourd'hui en Europe dans le but de fermer aux migrants l'accès à nos pays? Oui, mesdames et messieurs, l'homme a peur de ce qui ne lui ressemble pas. Par ailleurs, il va de soi que le terrorisme se nourrit de cette anxiété. L'usage de la violence à des fins idéologiques persécute les innocents et installe dans la population une méfiance délétère à l'égard de l'autre. Des organisations telles que Daesh ou Al-Qaïda ne manquent alors évidemment pas de tirer avantage de nos obsessions. Cependant, il me semble important de ne pas passer sous silence la récupération de ces psychoses par certains dirigeants. Il arrive effectivement que nos alarmes et nos détresses deviennent des arguments politiques, des sujets démagogiques de campagne. Dès lors, est-il légitime, est-il fondamentalement bon de laisser notre affolement guider nos choix? Pour terminer, on ne saurait discourir sur la peur sans examiner une question primordiale. Comment s'en libérer? À cela, mesdames et messieurs, je répondrai d'abord qu'il est impossible de s'en défaire. La peur correspond à un mécanisme naturel de défense. Composer avec ce paramètre est inévitable et s'y soustraire est impensable. Néanmoins, l'être que nous sommes est rationnel et la réflexion devrait nous aider à éviter les dangereux écueils des décisions prises sur le coup de l'émotion. Si nos inquiétudes ne peuvent être contournées, elles peuvent être apprivoisées en sélectionnant de manière pertinente les informations ayant trait aux objets de nos craintes. Connaître ce que l'on redoute permet au moins d'éliminer la part d'inconnu qui nous effraie. Vaincre ces angoisses peut également passer par la confrontation, comme je le fais en ce moment. Nous pouvons désormais conclure que la peur a souvent rendez-vous avec l'histoire, et qu'elle en devient même une force motrice dans les moments de trouble. Enfin, mesdames et messieurs, n'ayez pas honte de votre peur, mais soyez vigilants. Elle peut être mauvaise conseillère. N'oublions pas qu'elle a assassiné des innocents, en a asservi d'autres et a bâti des murs entre les hommes. Merci.